Ici Europe numéro 1.
Voici le premier épisode consacré à l'année 1955. Au menu, la création d'Europe numéro 1, Jean Cocteau académicien, les fortifiants dans le cyclisme et les 20 ans de carrière de Charles Trenet.
1955, Ondelat raconte sur Europe 1.
1955 est une date particulière pour Europe numéro 1. C'est l'année de sa naissance.
Jacques Provin, Michel Méry
et Suzanne Gabriello
sont heureux de vous annoncer, avec l'année nouvelle,
la naissance de la station de radio la plus puissante du monde,
Europe 1.
Europe numéro 1 est le bébé de Charles Michelson. Ça fait des années que cet homme d'affaires rêve d'une radio pour faire la nique à la radio d'État. Le 1er janvier 55, à 6h30, son rêve se réalise enfin. Et voilà ce que les Français entendent.
Ici Europe numéro 1.
Hier ist Europa Nummer 1.
This is Europe number 1.
Europe numéro 1 vient officiellement d'ouvrir son antenne. Dans les locaux du 26 bis rue François 1er à Paris, autant vous dire que c'est l'effervescence. Mais 10 minutes seulement après le lancement, le téléphone n'arrête pas de sonner. Il y a un problème, un gros problème. L'émetteur utilisé par la radio est trop puissant et il brouille le radiophare de l'aéroport de Genève. Il faut tout arrêter, immédiatement. 20 minutes seulement après la prise d'antenne, Gilbert Bécaud prend le relais.
Mon Dieu, qu'il y en a des croix sur cette terre. Croix de fer, croix de bois, humble croix familière. Petite croix d'argent, pendue sur des poitrines. Vieille croix des couvents, perdue parmi les ruines.
Le lendemain, la direction décide d'émettre de nouveau. Mais cette fois, c'est la Finlande qui se plaint du brouillage. Et pendant plusieurs semaines, l'histoire se répète. Le 3 avril 1955, la station obtient une nouvelle fréquence. Elle peut désormais émettre sur l'ancienne fréquence de Radio Paris, sans gêner personne. Et cette fois donc, c'est parti. Désormais, toutes les heures, on entend le carillon. Et tous les soirs, à 23h pile, Europe numéro 1 cesse ses programmes pour la nuit. Les auditeurs sont prévenus par une petite musique intitulée « Close your eyes ». C'est Maurice Jarre qui a composé l'indicatif sonore de la station. Et c'est un choix de Louis Merlin, le directeur. Louis Merlin qui veut absolument se démarquer de la radio publique. Et c'est le message qu'il passe à ses journalistes. Vous devez vous asseoir à la table de l'auditeur. Hein ? Vous devez vous asseoir sur le bras du fauteuil de l'auditrice. Vous devez devenir l'ami de la maison. En résumé, les journalistes d'Europe numéro 1 doivent adopter un ton plus direct, sans pour autant être familiers. Dès lors, sur les antennes, on n'hésite plus à interpeller l'auditeur. On le met même à contribution, comme ici pour les inondations de la Saône et du Doubs.
Partout en France, la décrue s'est accélérée. Mais le bilan des ravages causés dans les régions inondées est dramatique. Voici le communiqué publié par le gouvernement français. 314 000 hectares de terre ont été inondés. 52 000 personnes ont dû être évacuées. 43 000 immeubles ont été touchés par les eaux. Près de 50 000 ouvriers et employés sont au chômage. Les populations européennes ne sont pas restées insensibles à l'appel lancé par Europe numéro 1 en faveur des sinistrés des inondations. Des fonds nous parviennent de toutes parts. Nous allons vers les 10 millions. Cette somme sera atteinte et même certainement dépassée avant la fin de cette semaine. Vous tous qui nous entendez, venez en aide à tous ces malheureux qui ont perdu leur foyer ou leur travail.
En 1955, le pari d'Europe numéro 1, c'est l'information avec un grand T. Le chef de l'info, Maurice Siegel, veut carrément révolutionner le journal parlé. Et la naissance d'Europe numéro 1 va de pair avec une innovation technologique majeure. Il y a un petit appareil qui existe déjà, mais qui est très peu utilisé. Le Nagra, un magnétophone portatif. À la station, on se dépêche de s'en procurer pour tous les journalistes. Et ce jour-là, par exemple, c'est la Foire du Trône à Paris. Gilbert Lauzin part en reportage.
J'avais, lorsque j'étais enfant, rêvé d'une fête pareille, avec du bleu, du vert, du rouge et des ballons, et une grande roue comme celle-ci. Je l'ai trouvée, elle est ici, entre le métro de la Nation et celui de la Porte de Vincennes. Dans une odeur de frites et de nougat, des militaires, des midinettes se promènent. Du rêve et du plaisir pour 100 francs, pour 30 francs, pour rien quand on s'amuse en regardant les autres s'amuser. J'avais envie d'un cirque pour moi tout seul. Il est à tout le monde, c'est un vrai cirque, avec une parade à l'entrée où déjà les acrobates montrent ce qu'ils feront à l'intérieur. Près de moi, un petit garçon suce son pouce et regarde rêveusement le clown qui contrôle les entrées. J'avais, lorsque j'étais enfant, rêvé d'abattre mes ennemis avec des cailloux de chiffon comme ceci. Il tombe. Pardon, monsieur, excusez-moi. Pardon. Mais la vie, c'est une loterie, la vie. Un numéro, une couleur. Le rouge, c'est pour la couleur. Le vert, c'est pour l'espérance. Le noir, c'est pour la douleur. Les fêtes ont toutes les couleurs, sauf le noir. Ça tourne, ça s'arrête. Pourquoi faut-il que toujours ce soit les autres qui gagnent? On me dirait question de chance.
Gilbert Lauzin devient le roi du reportage immersif sur Europe numéro 1. En février 1955, il débarque dans les coulisses de l'Olympia avec son inséparable Nagra. La salle de spectacle fête ses 1 an. Édith Piaf est l'invité.
Je vous rappelle que nous sommes en pleine répétition. Édith Piaf vient de faire un signe vers le chef d'orchestre. Elle cesse son morceau. Va-t-elle sortir de scène? Non. Non, elle vient décider de répéter maintenant un morceau du célèbre Saïra. Édith Piaf est très nerveuse. Dans quelques heures, le public de la première l'attend. Et à l'instant, elle sort de scène. Elle est visiblement très fatiguée. Elle boitille un petit peu. Elle s'approche de nous.
Oh, je vous surprends toujours avec le micro comme
mais
ça.
Non,
et je dis si, monsieur, ça fait 3 fois que je vous surprends avec le micro.
Pierre, vous êtes très fatigué, mais accordez aux auditeurs d'Europe numéro 1 juste quelques mots sur votre rentrée de ce soir. D'ailleurs, je viens de rencontrer M. Cocatrice qui nous a dit qu'il était extrêmement heureux d'avoir une très grande vedette pour l'anniversaire de l'Olympia, car il y a 1 an que la salle s'est ouverte.
Oui,
il y a 1 an exactement. Vous ne saviez pas?
Non, je ne savais pas, vous me l'apprenez.
Et qu'est-ce que vous nous rapportez comme nouvelle chanson?
Oh, bien mon Dieu, j'en ai des tas. J'ai presque entièrement renouvelé mon tour.
Entièrement?
Presque. Enfin, tout de même, il y a 3-4 anciens succès que je remets. Mais enfin, en principe, j'ai une chanson de Gilbert Bécaud qui s'appelle Légende.
Il y a bien longtemps que s'aimaient deux amants, ne vivant que pour lui, respirant que pour elle, là dans ce même lit, oh Dieu qu'elle était belle. Mais on ne voulut pas de moi, je n'étais pas le fils d'un roi, on fit tout pour m'éloigner d'elle, jamais n'ai pu revoir ma belle.
À chaque fois qu'un événement vaut le détour, un reporter d'Europe numéro 1 est sur place. En mai 1955, c'est au cirque d'hiver que se rend Pierre Laforêt pour une fête en l'honneur du clown Achille Zavatta.
Oui, entrez.
Monsieur Zabata, je m'excuse de vous déranger. Je viens d'abord vous souhaiter bon anniversaire. Et ensuite, vous posez une petite question. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Excusez-moi, mais écoutez, vous tombez mal, c'est juste à moi maintenant. Vous voyez, on vient de m'appeler il y a une minute.
Eh bien, descendons ensemble, voulez-vous?
Oui, je descends parce que je dois passer tout de suite, là. Excusez-moi, hein. Attendez, je ferme la porte. Maintenant, je commence à prendre des précautions.
Et pour commencer, votre deuxième partie.
Bonjour, monsieur. Excusez-moi, je connais pas votre nom, hein. On s'est pas présenté encore.
Pierre Laforêt, Europe numéro 1.
Ah, bonjour. Ah, c'est Europe numéro 1?
Oui.
Ça me fait plaisir, c'est la première fois que je parle pour Europe numéro 1.
Alors, je crois que c'est demain que vous fêtez votre 20e anniversaire de piste.
C'est exact. Non, pas de piste, de cirque d'hiver. Parce qu'il y a 34 ans que je fais le métier d'artiste.
Europe numéro 1 se démarque aussi grâce à l'humour, avec une émission dédiée, Le Café de l'Europe, présentée par Robert Marcy et Maurice Birot, dit Bibi.
Comment ça va, Mémène?
Dites-donc, je vous en prie. Ah, maman, quoi?
Ah,
ma femme?
Oui.
Ah,
mais dites-donc, à propos, j'allais oublier.
Mémène?
Mais
qu'est-ce
qu'il y a?
Quel accent curieux.
Elle
oui,
va bien.
Ça va, elle va très bien. Merci, Achille. Oui, très bien. Très
oui,
bien.
Allez, merci, allez donc voir notre santé à côté.
Enfin, je peux vous le dire à vous, vous êtes amis. Il y a eu de l'eau dans le gaz.
Ah, il y en a eu quand même. Ah, beaucoup.
Oh, un peu.
C'est pas grave.
Voilà, Henriette a cru que je faisais la bombe.
Ah, elle avait raison. Oui. Ça se voit.
Doucement, les plaisanteries les plus courtes sont les moins longues.
Oui, bien
non,
sûr.
Non, je faisais pas la bombe du tout.
On dit ça, comme
non.
Ça. Durand,
ouais.
Franchement,
ouais.
Regardez ses yeux pochés.
Ouais.
Regardez cette mine avachie. C'est écrit dessus, bombe, noceur.
Ah, ah ben bah, tout ça, c'est très joli. Mais pour ce qui est de faire la bombe, eh ben moi, rien du tout.
Au Café de l'Europe d'Europe numéro 1, on discute et on blague comme au bistrot.
Dites donc à propos de bombe, là.
Une
des meilleures histoires que je connaisse là-dessus.
Oui.
En 40, à Londres, un grand magasin avait été bombardé et à moitié détruit.
Oui.
Au lieu de fermer, le directeur, simplement, il a fait afficher encore plus ouvert que d'habitude.
Ah, ça, les dents.
Ça, c'est joli.
C'est
ça,
de l'humour britannique.
Ah, c'est du plus bon. De l'humour. Hein.
Et puis, l'autre particularité d'Europe numéro 1, c'est la place de la musique et de la chanson. Dans ce domaine aussi, le changement est radical. Ce ne sont plus les maisons de disques qui décident quel artiste passe à l'antenne. Ce sont les programmateurs de la radio. Et grâce à eux, eh bien, on découvre de jeunes pousses, comme ici Gloria Lasso. Les programmateurs d'Europe numéro 1 ont un faible pour un artiste en particulier, Boris Vian. Sa chanson, Le Déserteur, est programmée à l'antenne. Mais en ce début de guerre d'Algérie, autant vous dire que la chanson passe mal. Certains aimeraient la faire interdire, sans succès.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. Si vous avez le temps, je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
À la programmation musicale, on est aussi féru de jazz. Et le 12 mars 1955, quand le grand Charlie Parker décède, le responsable Lucien Morris cherche un journaliste pour lui rendre hommage. Et on lui souffle le nom de Daniel Filipacchi. Le jeune pigiste fait tellement bien l'affaire qu'on lui confie dans la foulée une émission quotidienne pour ceux qui aiment le jazz. Avec son ami Franck Thénault, il prend désormais l'antenne chaque jour.
Bonsoir Daniel, comment vas-tu?
Ah, ça va très très bien. Je vois un disque là.
Hein. Attends, ne le prends pas.
Pourquoi je le prendrai pas?
Mais parce qu'on va le passer tout de suite.
Mais d'accord, mais alors... laisse-moi regarder la photo.
Et c'est un disque de Clark Terry.
C'est ce gros monsieur. Ah, c'est Clark Terry.
C'est le trompette Clark Terry.
Beau garçon.
Il dirige
hein.
sa formation, là.
Ah oui.
Il joue en compagnie de Cecil Payne, au saxophone, James Cleveland, au trombone, Horace Silver, au piano, Art Blackie, à la batterie, et il y a deux bassistes.
Qui jouent ensemble?
Ah, ils jouent ensemble, oui.
Ah,
il y a Oscar Pettiford qui joue du cello.
Ah, ben c'est pas de la basse.
Mais pizzicato.
Ah, pizzicato.
Et Wendell Marshall qui joue de la basse. Et tu verras, deux bassistes sont nécessaires parce que le morceau qu'on va passer maintenant est tellement rapide que j'ai l'impression qu'ils ont dû se partager le boulot. Il y en a un qui fait une note et l'autre. Tu comprends?
Hein? Ah, c'est une
nouvelle combine, ça.
Hein? Nouvelle combine.
Bien, on va écouter un truc rapide, là, pour nous mettre dans le bain. Hein?
D'accord.
Pour être d'attaque.
D'accord.
Chuckles.
Et c'est grâce à cette émission qu'Europe numéro 1 contribue à l'essor du jazz américain en France. Alors, quand le grand Louis Armstrong débarque à Paris pour remettre le prix de Miss Rhythm à la chanteuse francophone Guylaine Guy, eh bien Europe numéro 1 assiste à l'événement.
Jusqu'à présent, les chanteuses avaient été désignées aux États-Unis. Les plus célèbres de celles-ci sont Ella Fitzgerald et Mahalia Jackson. Et c'est pour la première fois une chanteuse blanche, une chanteuse de race blanche, qui est élue Miss Jazz, Miss Hot. Il a choisi Guylaine Guy parce qu'il estime que c'est la chanteuse française et l'une des chanteuses qu'il a vraiment enthousiasmée depuis plusieurs années et qu'il considère qu'elle est la chanteuse la plus dynamique, la plus décontractée, tel est son terme, qu'il a rencontré depuis longtemps. Eh bien, Guylaine Guy est près de moi. Guylaine Guy, vous venez d'apprendre que vous êtes Miss Rhythm. C'est un honneur qui échoit pour la première fois à la France. Qu'en pensez-vous?
Mais écoutez, je suis très heureuse et très très surprise parce que justement, je n'ai jamais fait autant de rythme que j'en fais maintenant. Et c'est pour ça d'ailleurs que M. Louis Armstrong a été étonné parce qu'il n'a jamais vu une Française faire autant de rythme. Mais j'étais vraiment forcée de faire autant de rythme étant donné que je suis sur son programme. Et j'adore ça.
Every word, every sigh, every kiss, dear.
Sans penser à ce que je ne peux pas dire.
C'est bon. I'll say it to you.
C'est bon.
Like the French people do.
C'est bon.
And if you only would.
C'est bon. Et si nous aimons. Je sais pas la raison. C'est parce que c'est bon.
C'est bon.
C'est parce que c'est. C'est bon.
I don't know what you're saying, but it sounds good.
C'est bon.
Yes, it's bon.
C'est parce que c'est.
C'est bon.
Yeah.
Da.
C'était Louis Armstrong qui vient de décréter que Guylaine Guy, la jeune découverte de Charles Trenet, est la chanteuse française la plus jazz.
1955, c'est aussi le début du 45 tours. Exit le 78 tours. Les jeunes ne jouent plus que par le 45 tours. Et ça donne l'idée d'une nouvelle émission à Europe numéro 1. Chaque samedi soir, la bourse aux chansons va désormais donner le classement des ventes de disques. La première chanson classée en tête des ventes de 45 tours en 1955 s'intitule « Les lavandières du Portugal » par Jacqueline François.
Connaissez-vous des lavandières comme on en voit au Portugal? Surtout celles de la rivière, de la ville de Setúbal. Ça n'est vraiment pas des lavoirs. Elle lave mais des volières, Il faut les entendre et les voir, rythmer leur chant de leur battoir. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Et tape, tape, tape sur ton battoir. Dormira mieux ce soir. Tap, tap, tap sur ton batois. Tap.
Les Lavandières du Portugal, chanson de Jacqueline François en 1955.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
En 1955, le cyclisme est le sport préféré des Français. Il a donc, naturellement, sa place sur Europe numéro 1. Durant l'été, en plein Tour de France, la station reçoit Jacques Marinelli, qui fut troisième du Tour de France en 1949. C'est un jeune retraité du cyclisme et il n'a pas la langue de bois.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous le savez, est-ce que tous les coureurs se chargent, comme on dit, ou bien seulement certains ? En quoi ça consiste? Parlez-nous un peu de ça.
C'est-à-dire, le mot est un peu exagéré, on dit « doping », savoir où finit le fortifiant et où commence le doping. Parce que vous avez un coureur, par exemple, qui prend un fortifiant pour faire le Tour de France, qui est une tâche surnaturelle, et on prend un fortifiant pour faire une épreuve aussi importante, ce n'est pas un doping.
Qu'est-ce que vous entendez par fortifiant dans
fortifiant,
ce cas?
J'ai par exemple... ma concierge qui est fatiguée en ce moment, le docteur lui donne un vin dit tonifiant qui renferme de la strychnine, de l'arsenic, de l'acide phosphorique.
C'est un fortifiant.
C'est un fortifiant. Ce n'est qu'une question de dose. Le coureur auquel on donnera un fortifiant genre vin tonifiant qui renferme tous ces poisons, eh bien,
disons toutes ces substances.
Oui. Eh bien, ce n'est encore qu'une question de dose. Le docteur n'est pas derrière lui pour voir combien il prend de fortifiant.
Enfin, moi, je crois, si on veut blâmer quelqu'un, en définitive, je crois que c'est quand même le coureur. Je m'excuse de dire ça devant Marinelli, mais c'est quand même le coureur.
Oui.
Parce que le coureur, quand il prend un fortifiant, ne consulte pas le docteur.
Vous avez, par exemple, un coureur qui va à l'étranger ou qui voit une vedette prendre tel produit. Automatiquement, ce coureur essaye de prendre la même chose avec l'espoir qu'il marchera aussi bien que la vedette. La plupart des coureurs pêchent par ignorance. Le coureur exagère la dose, c'est tout de même humain, vous comprenez. L'idéal, ce serait que... Tous les coureurs marchent tout à fait naturellement et ne rien prendre, absolument rien prendre. Mais c'est impossible.
C'est impossible dans une épreuve comme le Tour de France, il faut bien le reconnaître.
C'est impossible, d'autant plus que le coureur, par exemple, commencera par prendre 2 ou 3 cafés pour se réveiller, uniquement pour se réveiller. Il prendra 2 ou 3 cafés, un autre prendra un peu d'extrait de café, puis ensuite ça sera de la caféine et ça augmentera forcément.
Le fortifiant sera devenu un doping.
Et voilà.
Fortifiant ou doping ? Le distinguo n'est pas évident. Mais Marinelli a sa propre théorie qui vaut ce qu'elle vaut.
Il y a un mal lorsque le coureur achète un produit toxique qui est interdit par les lois sociales, mais non pas un coureur qui prend un médicament que l'on trouve dans le commerce et que tout le monde peut acheter. Mmh. Pourquoi ne pas interdire aux suiveurs de boire de l'alcool ?
Mais en tout cas, il y a une question qui se pose. Est-ce que l'usage du doping peut donner des jambes à quelqu'un qui n'en a pas ?
Non, mais par contre, je peux dire que tous les coureurs, pour ainsi dire, à des degrés différents, se dopent, puisque vous employez le mot dopé.
Tous sans exception.
Ce n'est que des fortifiants, mais dans le Tour de France, tout le monde se dope, si vous employez le mot doping.
Oui, c'est sûr.
Puisque tout le monde prend des fortifiants. On va me dire, ce n'est pas naturel de pédaler avec des fortifiants, mais ce n'est pas naturel non plus de rouler
de
à 60
de
à l'heure et de monter des cols. Vous voyez ? Alors, en somme, tout le monde se dope. Sauf que la grande vedette, par exemple, le lendemain, aura récupéré. Et alors, de la vedette, on ne dira pas il s'est dopé, puisqu'il n'aura pas eu de défaillance. Et je ne veux pas dire le second plan, mais enfin, celui qui aura mal digéré ce fortifiant, ou tout simplement qui sera un peu fatigué à ce moment-là, eh bien, celui-là, on dira il s'est dopé. Voilà la seule différence.
En cette année 1955, quoi qu'il en soit, c'est Louison Bobet qui remporte le Tour de France sans fortifiant.
Au Tour de France, Louison Bobet remporte son 3e succès consécutif. D'abord ici, victoire d'étape à Namur. Cette fois, une blessure à la selle l'oblige à se surpasser face au luxembourgeois Charlie Gaulle, grimpeur de poche aux réactions inattendues. Mais Bobet domine le Ventoux. Il est le premier à remporter 3 tours de manière consécutive.
Quelques mois après le Tour de France, Europe numéro 1 s'intéresse à un autre exploit cycliste, le record du monde de l'heure. Ça se passe au Vélodrome d'hiver, à Paris. Et celui qui va tenter de battre ce record est un petit jeune de 22 ans qui s'appelle Jacques Anquetil.
En ce qui concerne votre matériel, c'est toujours un point très important pour les records. Je crois que vous avez un vélo spécial. Parlez-moi un peu de ce vélo.
Oui, j'ai un vélo spécial. Je voulais l'essayer aujourd'hui, mais c'était un peu trop dangereux parce que c'est un vélo qui est très bas avec des grandes manivelles et il est trop dangereux de rouler au Veldiv avec un vélo comme ça. C'est pas assez rigide, comme il est très léger.
Combien pèse-t-il ?
7 kilos, je crois.
7 kilos, on fait difficilement mieux, je crois. Et après, de Anquetil, son mécanicien, Jaco, c'est vous qui avez préparé ce vélo pour Jacques Anquetil ?
Oui, j'ai préparé le vélo, puisqu'il m'avait demandé de faire un vélo spécial pour le record du monde. Alors, j'ai fait le maximum pour le préparer.
Les cotes sont spéciales ?
Non, les cotes ont été relevées sur son vélo du Grand Prix des Nations. Alors, le restant a été mis en rapport avec le travail qui doit être effectué sur une piste.
Comment peut-on gagner du poids sur un vélo ? Pour un record.
C'est-à-dire qu'il faut employer des tubes extra légers d'ailleurs, c'est-à-dire des tubes en 4 dixièmes, et il peut leur tricher un peu sur les accessoires, les amincir pour enlever les matières qui ne sont pas nécessaires.
Cette année-là, 1955, Anquetil ne bat pas le record. L'important, c'est de participer, n'est-ce pas ? En ce mois d'octobre 55, Alain Mimoun, lui aussi, veut s'attaquer au record de l'heure. Mais à pied. Problème. Quelques jours avant le grand rendez-vous, Mimoun a un problème au mollet droit.
Je vais tenter de faire cette course. Je n'oublie pas de vous dire que je l'ai préparée vraiment sérieusement, comme d'habitude d'ailleurs. Et qu'à la fin, juste un jour avant de venir ici, j'ai eu la malchance. Je ne sais pas si c'est du surentraînement, mais j'ai eu un petit claquage au mollet droit. Et j'ai mes amis qui sont en train de me soigner sérieusement. Et je voudrais, mon désir est de bien faire. Maintenant, vous garantir de faire une performance, je ne suis pas sûr.
Et est-ce que vous pensez que le travail de ce masseur réputé d'Alger, qui est en même temps le masseur de notre champion de France de boxe, Chérif Amia, qui vous y a emmené du reste, a pu vous faire du bien ?
Moi, je pense que ça va me faire du bien, parce que c'est un excellent masseur. Il va essayer de me retaper, mais vous savez, un claquage, je ne crois pas que ça guérisse beaucoup. Je n'ai pas de prétention, mais mon seul désir, c'est pouvoir ne pas décevoir mes compatriotes. Je voudrais courir. Courir, même sans penser au record, mais je voudrais courir devant eux. Je voudrais que mon mollet me laisse tranquille pour pouvoir courir. C'est mon seul désir. Je ne sais pas qu'est-ce que je donnerais pour pouvoir courir samedi.
Et pourtant, Alain Mimoun avait mis le paquet à l'entraînement pour être prêt.
Moi, je suis plutôt superstitieux, mais je vous assure que j'ai tout fait pour. Hein. J'ai tout fait. Je me suis préparé à Fontainebleau pendant un mois. J'ai tout fait. Alors, ce que j'ai, je peux pas vous expliquer. Si c'est du surentraînement, donc c'est que je suis pas encore capable de me contrôler, je ne sais pas.
Et nous dirons aux auditeurs d'Europe numéro 1 que nous espérons demain, en retransmission directe, pouvoir leur donner les différentes péripéties de la tentative de record d'Alain Mimoun. Et nous sommes certains, nous Algérois, qui connaissons son tempérament accrocheur, qu'il arrivera à ce grand titre de recordman de France, un titre que Jean Bouin détient depuis 1913, enfin qu'il avait établi en 1913, et qui tient toujours avec 19 km 021.
Ce 30 octobre 1955, Alain Mimoun parcourt 19 78 km et il bat le record détenu par Jean Bouin depuis 42 ans.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Le 3 mars 1955, Jean Cocteau est élu à l'Académie française. Et le 20 octobre, Europe numéro 1 est bien sûr là pour son discours d'intronisation.
Roulement de tambour. Au garde à vous, la garde républicaine, et là-bas, sous la coupole, le tout Paris, qui attend cet homme qui passe là sous mes yeux en grand uniforme d'académicien. Cet homme est un poète honoré de son vivant, ce qui est rare, honoré par une très vieille dame nommée Académie française. Jean Cocteau, qui accompagnait Jean Marais, a parlé durant une heure devant la foule, devant les académiciens.
Une heure de discours que la radio retransmet dans sa quasi-intégralité. Comme le fait à son importance, un journaliste est également dépêché sur place pour vivre la cérémonie en direct et interviewer Cocteau au pied levé.
Je passe maintenant le micro à Pierre Molteni qui l'attend sur les marches de l'Institut.
Il est 5 heures.
Nous sommes dans la cour de l'Institut de France et le nouvel académicien sort maintenant. Jean Cocteau répond aux félicitations de tous ses amis qui sont réunis autour de lui. On lui a offert une rose. Il porte son bicorne à la main, des gants blancs et le texte de son discours de tout à l'heure. Monsieur Dubois, préfet de police, fait le service d'ordre des voitures devant Jean Cocteau pour le protéger de ses admirateurs. Maître, est-ce que j'ose vous appeler maître maintenant?
Non, non, c'est toujours cher ami ici, ou cher Jean, mon cher Jean. Mais que voulez-vous que je dise au milieu de la foule?
Nous dire ce que très vous ému. Fait, ce passage dans l'immortalité.
Oh, il n'y a pas de passage dans l'immortalité, mais je suis très ému par la gentillesse. C'est ça qui me frappe toujours. Le souci qui est pompe m'est indifférent, mais la gentillesse me touche beaucoup.
Vous avez l'air très ému en effet. Je vous remercie beaucoup, Jean Cocteau.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin.
Un mois plus tard, c'est Charles Trenet que le tout Paris célèbre. Le fou chantant a 42 ans et ça fait 20 ans qu'il arpente la scène. Une petite fête a lieu chez Maxim's. Et pour la consécration, ses amis sont venus nombreux. Et parmi eux, qui retrouve-t-on? Ah bah Jean Cocteau.
Il y a là notamment l'un de ses vieux complices qui vient d'être élu à l'Académie française, Jean Cocteau.
Le compositeur, l'auteur, l'interprète des chansons les plus jeunes de notre époque, Charles Trenet. Fête dans un restaurant parisien, ses 20 ans de contrat avec la firme de disques Pathé, enfin la disque plus exactement, les disques Columbia. Charles Trenet, ces 20 ans représentent pour vous beaucoup. Et je crois qu'on va vous délivrer tout à l'heure un chapeau en or, un disque en or, mais c'est plus que votre millionième disque, je pense.
Délivrer est exact, puisqu'on va le sortir de sa petite prison de ouate et de velours. Et ces 20 ans de chansons représentent surtout pour moi ce soir une grande émotion, car ils me permettent de voir réunis des amis aussi sincères et aussi grands que Marcel Pagnol et Jean Cocteau. Jean Cocteau que je n'avais pas vu depuis quand?
Depuis combien d'années? C'est assez étrange, étant donné que nous nous sommes, pour ainsi dire, jamais quittés et que nous ne nous sommes pas vus depuis 7 ans. Depuis qu'avant de connaître Charles, je ne l'avais aussi quitté. Mais enfin, nous avons le sentiment de ne nous être jamais quittés. J'ai le sentiment de l'avoir toujours connu. Et ce soir, j'ai l'impression de l'avoir vu hier, ce qui est inexact, puisque il y a 7 ans que je n'avais pas eu la chance de l'embrasser sur les deux joues et lui donner la collade.
Et pour vous, Marcel Pagnol, que représente Charles Trenet?
Je suis très heureux de le voir ce soir dans ce véritable triomphe. Mais je pense avec une certaine émotion au temps où il chantait dans la cave d'un café qui s'appelait La Canebière et qui était évidemment sur La Canebière. Et c'est à ce moment-là que je l'ai connu. C'était un tout petit jeune homme et il ne pensait pas qu'on lui offrirait un jour un chapeau d'or, en attendant peut-être un bicorne.
En 1955, Charles Trenet chante National 7. La chanson parle de la route qui relie Paris au sud de la France. Une longue route de près de 1000 km que Trenet connaît parfaitement bien puisque c'est celle qu'il emprunte pour se rendre dans sa propriété de Jean Lépin.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là, qui fait risette. On est heureux, National 7. «
route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence.
National 7, le succès de Charles Trenet en 1955. Et c'est avec Le Fou Chantant que nous bouclons ce premier épisode de l'année 55, l'année de la création d'Europe numéro 1. La suite de notre exploration de l'année 1955 dans le deuxième épisode.
Retrouvez On de la Traconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur europe1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.
On est heureux, national, c'est...